Morning Business, le débrief de la matinale.
Le débrief de la matinale avec Éric Delannoy, Wilfried Galland, Jean-Philippe Cartier, Mathieu Pechberti. On commence avec ce dossier Atos. Hein, Atos et ses informations sur les métiers souverains comme les supercalculateurs, la cyber, les systèmes de sécurité de l'armée. L'État a annoncé hier, Mathieu Pechberti, qu'il avait fait une offre pour reprendre ses activités. Oui, mais pas seul.
Alors, c'est quand même d'abord une nationalisation, hein, faut le dire. Hein. C'est un petit bout d'Atos. Hein. Environ 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4000 salariés. Et effectivement, l'État a fait une offre pour racheter l'ensemble de ses activités. Et puis ensuite, l'idée, c'est de rouvrir le capital de cette activité à des industriels, parce que l'État ne veut pas y aller seul. Bruno Le Maire, qui a fait cette annonce hier, expliquait qu'il voulait faire un peu comme chez Naval Group. Vous savez, Naval Group, c'est une société qui construit nos sous-marins, notamment nucléaires. L'État est majoritaire dans cette société et Thales à 35%, mais c'est Thales qui nomme le patron, c'est Thales qui gère. Voilà, donc c'est l'opérateur entreprise privée qui gère. Donc là, l'idée, c'est de faire la même chose avec Atos. Et donc, on a entendu parler, effectivement, depuis plusieurs semaines, d'une sorte de solution de place avec beaucoup d'industriels de la défense. On reparle toujours des mêmes, évidemment. Oui. Dassault Aviation, qui, c'est très important, parce qu'avec le Rafale, il y a notamment beaucoup d'activités d'Atos qui s'occupent de la connectivité des Rafales. Thales et puis sûrement Airbus.
Ce sont les activités qu'Airbus voulait et qu'il n'a pas fini par reprendre.
C'est
la même chose.
Alors là, ouais, c'est un peu le problème des poupées russes hein, chez Atos. Hein. Donc, vous avez le gros Atos. Ensuite, vous avez une activité qui s'appelle BDS où il y a des supercalculateurs, de la cybersécurité. En gros, je schématise. Et puis à l'intérieur, il y a l'ancien Bulle, parce qu'il faut quand même mettre un nom, ça va peut-être parler à beaucoup de gens. C'est l'ancien Bulle qui avait été racheté par Atos il y a 10 ans. Et dans cet ancien Bulle, il y a effectivement ces activités qui sont non pas stratégiques ni souveraines, mais dites sensibles, parce que habilitation secret défense dessus. Vous avez des logiciels de simulation de missiles, vous avez des logiciels qui gèrent la connectivité des rafales, des écoutes
des
de la DGSE.
Aussi,
il y a aussi, alors ça c'est un petit peu à côté, mais effectivement, c'est une activité, encore une fois, près d'un milliard de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien.
Éric.
Oui, on est sur des activités qui sont pas du tout les activités, on va dire, stratégiques pour le groupe sur le marché. Cybersécurité, data, mais on est sur des activités stratégiques pour la France, ce qui est vraiment très différent. Donc on est sur un petit périmètre sur lequel, comme il n'y a pas de marché, enfin, évaluer la marge de ces trucs-là, c'est assez compliqué. En fait, ils font pas beaucoup de marge. Ça a l'intérêt d'être des contrats extrêmement récurrents. Donc, en fait, on est sur du symbolique. Hein. On parle de 4000 personnes sur 100 000. Mais ça montre que l'État s'intéresse à un groupe qui est en train de mourir et qu'il y a de la valeur quand même inscrite dans ce groupe suffisante pour qu'on essaie d'en sauver quelque chose. Maintenant, c'est pas ça qui va permettre de réduire ni l'endettement, ni le sauver de la faillite. Et en fait, ce que vit Atos aujourd'hui, c'est une spirale qui est délétère. Quelle que soit la décision de l'État d'y aller seul ou pas seul, la spirale délétère, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui continue à s'étioler progressivement, parce que maintenant, on est dans un système d'attentisme où les contrats ne se renouvellent plus. Mmh. Et ce qui est logique. Enfin, vous avez des contrats aussi importants que l'infogérance à renouveler, vous n'allez pas le faire avec une entreprise dont on ne se connaît pas l'avenir.
Et c'est des contrats pluriannuels.
Parce que les banques sont en train de partir. Exactement. Donc là, il y a un vrai sujet de comment arrêter la spirale négative en redonnant un peu de cash à l'entreprise.
Wilfried.
En fait, ça pose de gros sujets. Le premier, c'est la pérennité même de ces activités-là. Quand on regarde uniquement, par exemple, les activités de cybersécurité, quand on voit la valorisation qui sera à peu près sur l'activité cybersécurité, ça pourrait être à peu près, en tout cas, on va dire 500 millions d'euros. Les grands concurrents américains, Zscaler ou Cloudflare, ils sont valorisés autour de 25 milliards de dollars. Donc, en fait, on est sur des toutes petites activités. Donc, il faut arriver à les pérenniser. Et ça va être quand même être très compliqué. Le deuxième, c'est quel va être l'impact sur le reste des activités, parce que Atos avait aussi fait une grande partie de ses efforts commerciaux en disant on a énormément de services à vous proposer en plus de l'infogérance pour effectivement valoriser un certain nombre de choses. Là, pour le reste des activités, on perd quand même énormément de valeur. Ça va avoir un impact sur les créanciers, les actionnaires potentiels, sur les plans de reprise. Donc tout ceci, je trouve, complexifie énormément les choses.
Il ne pourrait pas y avoir, Mathieu, d'autres offres de l'État sur d'autres parties? Il y a le cloud, par exemple, qui pourrait aussi avoir une dimension stratégique, souveraine?
Non, a priori, l'État, déjà, à la base, ne voulait surtout pas aller dans ce dossier. Il y est contraint parce que ce sont des activités, encore une fois, de secret défense liées aux militaires. Donc là, on est quand même sur du très sérieux. Il y a une activité, effectivement, qui s'occupe du contrôle-commande des centrales nucléaires, qui est liée à EDF. il n'y a pas besoin d'avoir, enfin, encore une fois, de les extraire. Peut-être qu'elles le seront d'ailleurs, peut-être qu'elles pourraient être rachetées par EDF et par Framatome, mais pour le moment, on n'y est pas, non.
Jean-Philippe Cartier.
Non, mais sans rentrer dans la technique, en tant que citoyen, que l'État s'intéresse à aussi petite filiale soit-elle, une filiale qui s'occupe de nos essais nucléaires, des essais de domicile et des écoutes de la DGSE, ça me paraît quand même plutôt rassurant que le fait qu'il le laisse partir à volo à n'importe qui. Je crois que c'est ça qui est plus important que le reste.
Voilà, n'importe qui, je sais pas, mais il y a toujours des offres de reprise qui doivent arriver pour le reste en fin de semaine.
Voilà, pour le reste, exactement, en fin de semaine, vendredi, les deux prétendants habituels dont on parle maintenant depuis des semaines sont David Layani, le patron de OnePoint, qui est actionnaire d'Atos, qui est très attendu là-dessus, et puis Daniel Kretinsky, l'homme d'affaires tchèque qui a repris déjà Casino, qui se fait un petit peu désirer. Mais dont tout le monde pense quand même qu'il déposera.
Bah, il avait d'autres achats à faire, là. Il a fait ThyssenKrupp.
Voilà. Mais dont tout le monde pense qu'il sera là. Ce qui est intéressant, juste pour ajouter une dernière chose, c'est que l'État va renationaliser, en fait, Bull. Hein, vous savez, Bull, c'est une société publique qui a été privatisée il y a quasiment 30 ans. Et à l'époque, le numéro 2 s'appelait Thierry Breton. Et cette société, en plus, a été rachetée par Atos il y a 10 ans quand Thierry Breton l'a dirigée. Donc c'était un retour dans le giron public.
Bon, vous continuez de suivre évidemment ce dossier Atos pour nous, Mathieu Pechberti. Pendant ce temps-là, il y a eu une bonne nouvelle vendredi pour la France. La France a échappé à la dégradation. On n'a même pas vu la perspective être abaissée, Wilfried.
Mais non, c'est ça qui est formidable. C'est quand
vous disiez Fitch.
Voilà, les deux nous disent, en fait, les deux nous disent que la situation n'a pas fondamentalement changé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a raté un objectif budgétaire qu'on est en train d'avoir une situation qui est profondément différente de celle qui avait été évaluée précédemment. Donc tant mieux. Alors j'irais effectivement, pour reprendre l'optimisme de Jean-Philippe, effectivement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est une bonne nouvelle d'avoir des agences internationales qui nous disent que la dette globalement est de qualité. Ce que ça nous dit aussi, c'est... on évalue la dette française sur plusieurs axes. C'est à la fois sur l'axe, effectivement, de la stratégie budgétaire française, mais également sur ce que veut dire acheter de la dette en termes de liquidité, en termes de capacité, justement, à échanger cette dette sur le marché. On évalue également la capacité globalement du pays. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'épaisseur. L'épaisseur de la laine sur le mouton et la capacité à bien actionner la tondeuse. En général, ça, on est super bon là-dessus.
Puis on sait bien lever l'impôt.
Voilà.
C'est ça que je voulais dire.
Et puis le mouton a vraiment une toison très épaisse. Donc globalement, les agences nous disent finalement, tant que ça reste comme ça, il n'y a pas de raison que par rapport aux autres, ça c'est très important, que par rapport aux autres, parce qu'à chaque fois on est quand même dans la comparaison, qu'on vous dégrade.
Jean-Philippe Cartier, quel est le climat global dans les affaires aujourd'hui en France?
Je vais vous répondre, mais je vais juste rebondir sur quelque chose qui, à mon avis, me paraît important pour bien comprendre la situation. Est-ce qu'on n'explique pas pourquoi on est passé de 4,9 à 5,5, par exemple? Et je pense que ça, les gens ont besoin de le comprendre.
Sur le déficit.
Oui, sur le déficit, qui a alerté tout le monde, les oppositions, et qui a mis vent debout à peu près tout le monde. La réalité, c'est que, on n'en parle pas, mais il y a eu un très mauvais quatrième trimestre. C'était attendu absolument par personne. Fouet de l'inflation, avec un problème énorme de 20 milliards de recettes fiscales en moins. Donc, ce que veut dire les notes maintenues des agences de notation, c'est qu'il y a conjoncturellement un effet très mauvais de ce T4, mais on croit quand même, dans les perspectives de la France, dans sa gestion, il n'y a pas eu d'explosion des dépenses publiques.
Alors, quand vous lisez dans le texte, ce n'est pas exactement ce qu'elles disent, les agences.
Elles ont maintenu la note. Donc, clairement, elles font confiance à la stratégie de retour au déficit à 3%.
Bah, elles disent qu'il ne va rien se passer, quand même.
Hein. Encore une fois, tout le monde pariait sur la baisse.
Ah,
tout
c'est
le
sûr.
Monde,
ah, bah, oui.
Y compris. Tout le monde. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, force est de constater que les agences ont maintenu en tous les cas leur notation. Encore une fois, on oublie que notre pays est un pays dépensier, il a aussi dépensé beaucoup pour les entreprises, n'oublions pas le Covid, on oublie tout, on balaye tout, ça va hyper vite, on passe déjà à autre chose, on a tourné la page. Mais on a énormément dépensé pour aider les entreprises. Alors il y a plein de sujets qui m'irritent et qui m'agacent dans ce pays, mais pas la manière dont cette logique économique est gérée. Donc l'objectif du ministre d'arriver à 3% en 2027 doit être tenu, et maintenant par contre, je pense que la leçon est comprise et qu'on doit aller à fond sur cette tendance.
Mais Eric, les agences de notation, elles l'ont écrit noir sur blanc, elles n'y croient pas qu'on va revenir dans une trajectoire à 3%.
Elles n'ont pas écrit « je n'y crois pas ».
Les mots, elles ont écrit « les progrès dans la réduction soutenable du déficit budgétaire et la dette est limitée ». Bon, elles ont écrit « on n'y croit pas ».
Elles n'y croient pas et j'ai envie de dire « c'est pas très grave ». Enfin, moi, ce qui me sidère toujours, c'est l'importance qu'on donne à ces agences de notation qui ont passé leur temps à faire plein d'erreurs, qui sont par ailleurs extrêmement trustées par les Américains, qui ne s'occupent pas forcément d'ailleurs des bons ratios. Hein. Il n'y en a aucune aujourd'hui, même après le rachat de Vigeo par Moody's, qui s'occupe des critères ESG, hein, qui sont quand même aujourd'hui au cœur du réacteur. Donc moi, l'agence d'une notation, quand on est sur une émission de dette souveraine, c'est acheté par des gens qui ont autant de moyens que les agences de notation de pouvoir évaluer si elles peuvent acheter ou ne pas acheter, avec quelle prime de risque. Ça veut dire que je suis toujours sidéré de voir l'emphase que l'on met sur ces sujets-là, quand on sait qu'elles sont absolument responsables, notamment de la crise de 2008. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, Objectivement, que ce soit conjoncturel ou pas, on en avait déjà parlé, la manière dont est pris la volonté de réduire le budget est une manière qui est la manière de faire la politique depuis 30 ans. On fait des rabots par-ci, par-là, on s'interroge sur l'augmentation des recettes. On ne s'interroge encore une fois de plus pas sur comment structurellement on va faire en sorte d'avoir un État qui est moins dépensier. On parle des collectivités territoriales, on parle des retraites, on parle de... Enfin, tout un ensemble de sujets qui vont à volo, qui ne peuvent que dériver avec la démographie française et qu'on ne traite pas. Ce n'est pas en rabotant les prestations sociales, ce n'est pas en allant chercher des économies de bout de chandelle qu'on va trouver durablement les 10, 15, 20 milliards et probablement 30 milliards dans 3 ans pour pouvoir arriver aux 3%. Donc de cette manière-là, de toute façon, à titre personnel, il n'y a pas besoin d'une agence de notation pour me dire on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que depuis 1974, première année où on a eu le déficit budgétaire négatif, on n'y est jamais arrivé. Donc il n'y a pas de raison qu'on y arrive de cette manière-là.
Alors je repose la question à Jean-Philippe, le climat des affaires, parce que quand j'entends Eric, c'est pas la fête quand même.
Oui, mais c'est Eric, on le sait, ça, c'est le petit pessimisme d'Eric ambiant que j'apprécie.
Donc, chacun est dans son petit rôle.
L'économie, non mais enfin, en l'occurrence, il est entrepreneur également, mais à nous d'être optimistes, encore une fois, d'amener du positif. Il y a une nouvelle qui est cohérente, le climat des affaires n'est pas mauvais, l'économie française est forte, même si on s'en fout de ces agences de notation, tout le monde en parle depuis 15 jours, donc c'est bien qu'il y a quand même un impact, et sur le climat, et sur le ressenti, et sur l'économie globale. Donc à partir de ce moment-là, il faut admettre deux choses, c'est que l'économie française est considérée comme forte, et elle se tient plutôt pas mal. La croissance, si je ne me trompe pas, ça devait être 1, c'est 0,9 en 2023. Sur 2024, si je prends mon expérience personnelle avec l'ensemble des activités que je peux soit piloter, soit dans lesquelles j'investis, elle se passe plutôt pas mal. Le T1 n'est pas mauvais. Alors évidemment, il y a des secteurs qui souffrent plus durement, mais de manière globale, l'activité se passe bien. Donc à partir de ce moment-là, restons optimistes et continuons.
Est-ce qu'il y a de l'investissement ?
Oui, il y a de l'investissement. Enfin, j'en suis le premier exemple. À mon niveau, j'investis. Alors après, vous parlerez de Total sur des beaucoup plus gros tickets, sur des... c'est encore un autre débat, mais l'économie et le climat se portent bien. Essayons de voir positivement, malgré tout le drame des JO, tout le monde râle, ça ne roulera pas, ça sera le bordel. Essayons d'anticiper. En tous les cas, dans le secteur du tourisme, ça se porte bien. Dans le secteur de la restauration, ça se porte bien. Dans le secteur du digital, j'ai un certain nombre de participations. Les chiffres du T1 sont assez bons. Donc je reste Choose Friends.
Justement, vous, c'est tombé, c'est la semaine prochaine, le salon Choose Friends.
Vous avez vu mon anglais.
C'est le 13, je vois que vous vous préparez à accueillir les investisseurs étrangers.
Okay.
Juste
remarquable.
Sur le tourisme, on était avec le patron d'Airbnb en France il y a quelques instants.
Je ne connais pas Airbnb.
Non, mais je vous dis que vous ne connaissez pas. Il va faire x2 pour les Parisiens. Ça ne sera pas x10.
Non,
ça sera un peu moins de x2 sur les logements.
Alors, ça, il n'y a pas être. Non, mais je pense même que tous ceux qui l'ont fait intelligemment, et je pense qu'on en fait partie, ont anticipé de monter un peu leur prix. Mais nous, on a été beaucoup plus cohérents. Je ne crois pas au x5. Enfin, déjà, ça ne tenait pas la route. Donc, nous, on a été encore plus raisonnables. On est même en dessous de x2.
Est-ce que c'est plein ?
Ouais, c'est... Alors, avec la stratégie que nous avons abordée, nous sommes absolument pleins.
Mais
qui n'est pas x2. Nous sommes plus raisonnables que Airbnb, nous, les hôteliers.
Plus raisonnables que les Parisiens. Du coup,
oui,
à l'instant,
je parle de Paris, là, en
l'occurrence. Atos, on y revient, Mathieu Pechberti, ça n'est jamais fini. Atos annonce revoir en hausse ses besoins de financement. Il cherche désormais 1,1 milliard d'euros de liquidités pour financer l'activité. On était à 600 millions d'euros précédemment estimés. Ça fait quasiment le double.
On va regarder en détail ce qu'ils veulent exactement, parce que la dernière fois, on parlait d'un milliard d'eux, dont 600 millions d'euros de cash. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques avec un peu plus de dettes, mais oui, les résultats qui ont été publiés la semaine dernière sont très mauvais. Et donc, il va falloir remettre plus d'argent comme prévu. Ce qui est intéressant, à la fois sur ce que vous venez de dire et... l'investissement de l'État, la quasi-nationalisation de ses activités, c'est que s'il y avait un repreneur français solide... prêt à racheter Atos et on va dire validé un peu par toutes les parties prenantes, Atos, les actionnaires, les créanciers, le gouvernement,
ça, on a pas.
L'État ne serait pas venu hier soir. On en a un qui s'appelle David Layani, OnePoint, qui est identifié. Sauf qu'il n'est pas considéré comme assez solide financièrement. Chez Atos, il n'est pas très 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 apprécié, on va le dire comme ça. Et à Bercy, c'est compliqué justement parce qu'il n'est pas assez solide financièrement. Donc, ce qui s'est passé hier soir et ce que vous venez de dire ouvre quand même la voie à une offre qui aura lieu de toute façon, mais très probablement un succès probable de Daniel Kretinsky, puisqu'il n'aurait plus ces activités qui posent problème à l'État et qui avaient créé une bronca l'été dernier, vous vous souvenez ? Et puis lui, des sous, on en avait parlé pendant toute la matinale, il en a énormément grâce à ses activités dans l'énergie. Donc, il y a quand même des petits signaux faibles et des choses qui sont en train de s'aligner là.
Notre troisième sujet de débrief, Total Energy, qui envisage d'aller se coter à New York. C'est Patrick Pouyanné lui-même qui en a parlé lors d'une interview à Bloomberg. Il dit, je pense qu'il s'agit d'une question légitime, c'est pas une question d'émotion, c'est une question d'affaires, Wilfried.
Ah bah clairement. Enfin,
il dit qu'il est maltraité en Europe, notamment par les actionnaires.
Bah, en fait, quand on regarde les valorisations la valorisation de Total, quels que soient les ratios qu'on prend par rapport à ses grands concurrents, c'est sûr qu'en gros, Total est deux fois moins valorisé que ses grands concurrents, les grandes majors pétrolières, alors que la rentabilité est bonne et que la stratégie de déploiement dans les énergies renouvelables est réelle. On peut trouver que ça va pas assez vite, on veut trouver que voilà, mais il y a probablement plus de choses qui sont faites par Total en particulier que par ses grands concurrents américains. Quand on regarde les grands concurrents américains, ils ont quand même les deux pieds sur le frein, or ils sont deux fois plus valorisés, et c'est d'autant plus important. Pourquoi cette histoire de valorisation est importante? C'est parce que lorsque vous faites des opérations, et aujourd'hui Total en fait beaucoup justement de rachats dans les renouvelables ou effectivement dans d'autres domaines énergétiques, vous avez besoin de faire des échanges d'actions, donc vous avez besoin d'avoir une valorisation qui est importante. Et aujourd'hui, il y a véritablement un problème, puisqu'on a en Europe un désengagement progressif de toutes les énergies qui sont perçues comme étant des énergies largement fossiles.
Il y a les fonds ISR qui ne peuvent plus investir dans Total, il y a les banques qui font le choix de sortir.
Exactement, et donc globalement, l'actionnariat Total devient de plus en plus américain, et donc le choix, effectivement...
Donc il a raison, c'est ça que vous voulez dire.
D'un point de vue business, je pense qu'effectivement, il a raison, ouais, absolument.
Alors, Eric.
Moi, je pense que c'est aussi un moyen de pression quand même sur l'intelligence européenne, parce qu'on voit bien le paradoxe absolument incroyable, c'est qu'on se désengage d'une société qui est quand même un des fleurons français sous prétexte de pureté écologique, alors qu'on va les mettre dans les mains d'Américains qui n'ont pas du tout cette même prévenance. Donc en gros, on se tire une balle dans le pied, quoi. Enfin, en moins de 3 ans, la part des Américains dans le capital de Total a quasiment été multipliée par 2. Parce que la part des Européens a diminué d'autant. Ce qui est absurde. Aujourd'hui, Total est une société qui est plébiscitée par les Français, mais détestée par les activistes. C'est une société dont on ne veut pas entendre parler parce qu'on se dit que ça représente le diable, l'économie fossile. Mais c'est parce qu'il y a des bénéfices sur les énergies fossiles qu'on finance la transition écologique sur les énergies renouvelables. Enfin, c'est la société de tous les paradoxes, cette entreprise-là. Et je rappelle quand même un tout petit peu d'histoire. Hein. C'est quand même une entreprise qu'on a créée quasiment de toutes pièces, la seule major de liée aux hydrocarbures qui est dans un pays qui n'a pas d'hydrocarbures. Enfin, je veux dire, c'est quand même absolument incroyable d'avoir réussi à faire ça. Et de le gâcher à ce point, c'est quand même terrible. Et effectivement, M. Pouyanné a raison de le dire en termes business. Moi, la petite chose que je reproche, c'est effectivement peut-être le rythme et certainement de ne raisonner qu'en termes financiers et en négligeant peut-être justement cette espèce d'ambiance qu'il faudrait prendre.
Enfin, là, si je vous entends tous, pour l'instant, il a raison.
Il a raison.
Non, moi, je suis pas sûr. Non. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de paradoxes. Et ce grand écart, il est difficile à faire pour lui, quand même, entre un pied en Europe, un pied aux États-Unis.
Le siège ne bougerait pas. Il parle de cotation principale.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est quand même, il louvoie depuis plusieurs années entre un coup, je vais vers le green, enfin, je caricature évidemment, mais et puis un coup, je suis un pétrolier très rentable. Patrick Pouyanné investit beaucoup d'argent aux États-Unis, notamment dans le GNL, ça lui fait gagner énormément d'argent. Total, c'est le premier exportateur de GNL américain. Et en gros, aujourd'hui, Total est un gazier. Hein. Il y a la moitié de ses profits proviennent du GNL. Et puis, en termes de com, évidemment, on n'est pas dupe, mais il nous fait un discours très énergie renouvelable, plutôt green depuis quelques années, qu'il a largement atténué depuis un an ou deux, parce que l'ambiance est moins celle-ci. Mais je trouve ça compliqué pour lui qui a changé le nom de son entreprise de Total à Total Energy en mettant sur son logo du vert, etc., en disant je fais l'électricité verte, des renouvelables, et en même temps en disant je vais aller me coter aux États-Unis, en tout cas en première cotation, parce que là-bas, le pétrole, ils aiment ça. Donc je pense que c'est compliqué, sachant qu'il aura peut-être le retour de bâton, ou quand il aura beaucoup plus d'investisseurs américains qu'européens, les investisseurs américains, ils n'aiment pas les PDG.
Ah.
Et là, vous voyez, là, il y a des investisseurs qui demandent
la séparation des...
Monsieur Pouyanné, il faut choisir. Vous êtes président ODG. Et il a dit non. Donc, il est soutenu parce qu'il a des investisseurs assez français, européens. Alors, certes, qu'ils veulent plus de verre, alors que lui, il fait beaucoup de pétrole. Et il a surtout un conseil d'administration très français. Mais le jour où il aura les investisseurs américains qui lui couperont la tête, peut-être qu'il regrettera ce qu'il a fait.
Ça, c'est un bon argument. Jean-Philippe Cartier.
Le PDG d'Exxon, ça n'a jamais posé problème. Hein.
Non, j'écoute. Je pense que ça explique une fois de plus que la puissance financière, économique, boursière mondiale, c'est les US. S'il y avait encore un doute...
Oui, mais on n'a pas d'union des marchés de capitaux.
On parle d'Europe à 2 mois des élections. Enfin voilà, l'Europe, vous avez le résumé là. Évidemment que Total, on connaît tous, on est les premiers d'ailleurs. On critique tout et son contraire, mais on est les premiers à être ravis quand ils arrivent à baisser les prix. Hein, 99, moi le premier, je gagne un peu ma vie. Je dis, ah c'est formidable, on va aller là, c'est un 99, c'est correct. On en a besoin de Total. Moi je pense que Total doit rester en France. En Europe, pour moi c'est une évidence. Et je pense, pour conclure là-dessus, que c'est une entreprise qui a raison, en tous les cas, de le jouer de cette manière-là pour mettre un coup de pression, parce que, avec ce que tu disais sur les activistes et autres, c'est une entreprise dont on a besoin.
Éric.
Non, mais il y a aussi un enjeu qui est évident. Aujourd'hui, il y a une pression du gouvernement pour faire en sorte d'accélérer l'unification des marchés financiers européens. Ouais. Voilà un enjeu très fort pour Total, par exemple.
Enfin, une des raisons. L'union des marchés de capitaux, parce qu'on n'a pas de profondeur de marché en Europe.
Aller faire du marché du
pays. On en est loin quand même.
On en est quand même loin. Il y a 10 ans, on était loin de l'union bancaire. On a fait l'union bancaire. Il n'y a pas de raison qu'à la lumière d'entreprises comme celle-là qui vont chercher des capitaux ailleurs, on ne mette pas en place ce qu'il faut pour faire en sorte que les capitaux financiers puissent facilement trouver un marché.
Moi, je suis sur un gros dossier de financement sur une activité. Tout le monde d'accord en Europe.
C'est pas fait. Mais oui, mais
même les banques qui n'arrivent pas. Il y a peut-être l'union des marchés bancaires.
Et une petite réforme sur l'ESG qui permettrait de.
C'est l'Europe. C'est pas l'Amérique.
Vous voulez remettre Total Energy dans l'ESG et l'ISR ?
En tout cas, il faut arriver à déverrouiller un certain nombre de verrous financiers qui existent aujourd'hui et qui empêchent Total d'avoir une valorisation en Europe qui soit à la hauteur
de. Ce qui reste un conseil boursier, donc c'est pas encore assez cher, 68 euros si je t'écoute.
Allez, on finit là-dessus. Merci à tous les quatre d'être venus débriefer la matinale de l'économie.